Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le temps est à l'action. Emmanuel Macron endosse quasiment toutes les propositions des 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat qu'il a reçue à l'Élysée hier. Le chef de l'État, heureux de remettre l'ambition écologique au cœur du modèle productif français, sans la décroissance prônée par certains écologistes.
Mais 103 propositions de la Convention citoyenne, celles qui étaient les plus controversées par le patronat notamment, on fait le point dès le début de ce journal.
Emmanuel Macron, qui s'est engagé à transmettre au gouvernement ou au Parlement ou encore à soumettre à référendum ses propositions de la Convention citoyenne au lendemain d'une vague verte au municipal, changement de l'équilibre par ailleurs des forces à gauche. Paris et Berlin sur la même longueur d'onde pour relancer l'Europe et l'économie des 27 après la crise. Nous irons à Berlin dans quelques instants. Que vont devenir les propositions de la Convention citoyenne pour le climat ? Hier, Emmanuel Macron a opposé son veto à trois mesures : la limitation de la vitesse à 110 km/h sur autoroute, le changement du préambule de la Constitution et l'idée d'une taxe de 4% sur les dividendes des entreprises. Satisfaction du patronat qui demande encore davantage d'argent pour opérer ce virage écologique dans l'économie. Emmanuel Macron promet lui 15 milliards d'euros et d'intégrer aussi des mesures dans le plan de relance économique cet été et dans un projet de loi spécifique à la rentrée, travail pour lequel les 150 membres de la Convention citoyenne seront associés, l'aboutissement d'un exercice inédit, Margot Delpierre.
Après 9 mois de travail, Emmanuel Macron s'est exprimé devant les citoyens reçus à l'Élysée. Sylvain y était, il en est sorti globalement satisfait.
Les seuls bémols, c'est peut-être le manque de visibilité sur le timing et sur les prochaines étapes. Là, pour l'instant, on a eu un discours de clôture, on va dire, avec quelques signaux très forts. Maintenant, il faudrait qu'on ait peut-être des précisions sur le calendrier de chaque groupe de mesures. Là, on va commencer à rentrer dans le dur des travaux. Et puis en septembre, on va, avec l'association des 150, vraiment se remettre à les suivre, challenger les personnes qui souhaiteront les mettre à mal, acculturer les personnes qui ne connaîtront pas les sujets et travailler avec les parlementaires, les partenaires économiques, les partenaires sociaux et la société civile.
Les 150, c'est le nom de l'association fondée dans le but de conserver du lien entre les membres de la Convention et donc d'assurer le suivi de leurs propositions, ce qui n'est pas pour déplaire à Sylvain.
Ce que je voudrais, en fait, c'est recommencer avec les mêmes personnes, les mêmes galères, les mêmes prises de tête, les mêmes tonnes de papiers qui nous arrivaient, qu'on avait du mal à relire, la même intensité de rapport dans ces gens qui sont arrivés à des niveaux d'expertise super importants. Le président d'ailleurs va passer cette expérience comme formation professionnelle qualifiante, donc on va être reconnu par rapport à ses travaux. Je souhaite à tout le monde de vivre ce qu'on vient de vivre.
Et l'exercice pourrait se répéter, il y aura d'autres conventions citoyennes sur d'autres sujets, a promis hier le président de la République.
Emmanuel Macron qui a adopté une demande que lui soumettait depuis quelques semaines déjà un collectif de fédérations de commerce, d'élus et d'ONG, un moratoire sur les nouvelles zones commerciales en périphérie des villes. Cette politique contre l'artificialisation des sols avait débuté avec l'interdiction du projet de gigacentre commercial d'Europa City dans le triangle de Gonesse, en Ile-de-France. Alma Dufour, chargée de campagne extraction et surconsommation à l'ONG Les Amis de la Terre, se félicite de la traduction en acte de beaux discours politiques.
On va être très vigilant à ce que les zones commerciales et les entrepôts de e-commerce soient effectivement gelés, qu'il n'y ait pas d'autorisation en cours. On pense notamment au projet de Belfort d'Amazon, un centre de tri de 76 000 m² qui devrait être autorisé par l'État dans les prochaines semaines. Donc on sera très très vigilant à ce que la parole présidentielle soit vraiment traduite concrètement dans les faits, mais on se félicite effectivement de ce qu'on perçoit comme un revirement historique. Et puis il y a aussi la question des gilets jaunes, parce que le gouvernement a été évidemment, comme nous tous, très marqué par le mouvement des gilets jaunes. Or, il y a des études qui tendent à démontrer que la désertification des centres-villes et la fermeture des petits commerces, l'enlaidissement des paysages, l'artificialisation, etc., contribuent à un mal-être profond des gens qui vivent en périphérie des grandes villes et en fait a beaucoup contribué à faire émerger le mouvement des gilets jaunes. Donc je pense que c'est la conjonction de ces deux facteurs qui donne un volontarisme politique plus fort que sur d'autres sujets.
Alma Dufour de l'ONG Les Amis de la Terre, elle répondait à Anne Lorchouin. On l'entendait à l'instant, déjà concurrencé par les géants du e-commerce et les centres commerciaux en périphérie, les petits commerces de proximité ont également été durement frappés par les conséquences de la crise sanitaire. 15 à 30% d'entre eux pourraient ne pas finir l'année. Pour éviter ce qui pourrait ressembler au plus gros plan social de France, selon la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher, Bercy a dévoilé hier son plan d'aide aux petits commerçants, artisans et indépendants, 900 millions d'euros autour de trois mesures que nous détaille Annabelle Grelier.
Il s'agit de soutenir tout d'abord la trésorerie des entreprises. En plus des exonérations de charges sociales déjà annoncées pour les commerçants qui ont dû fermer leurs portes pendant le confinement, les très petites entreprises de moins de 10 salariés vont bénéficier d'une annulation de cotisations sociales patronales de 3 mois au titre des mois de mars, d'avril et de mai. Dans le secteur du tourisme, incluant l'hôtellerie-restauration, mais aussi l'événementiel, la culture ou le sport, ces exonérations seront étendues jusqu'en juin. Les indépendants pourront aussi débloquer jusqu'à 8 000 € de leur contrat de retraite, de prévoyance, de santé ou mutuelle Madelin, dont 2 000 € seront défiscalisés. Deuxième mesure pour éviter la fermeture massive des petits commerces et la désertification des centres-villes, le gouvernement annonce qu'il va mobiliser la Banque des Territoires, pilotée par la Caisse des dépôts, pour aider une centaine de foncières à se déployer partout en France, avec pour objectif de rénover 6 000 petits commerces. Ces foncières, constituées avec les collectivités locales, achèteront des locaux vacants ou des commerces sur le point de fermer, les rénoveront et les loueront à un tarif préférentiel à des commerçants cherchant un local, explique le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Enfin, troisième mesure, le gouvernement promet d'encourager le développement numérique des petits commerçants pour leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires, soit en se faisant mieux connaître, soit en développant la vente à distance. Merci annonce un dispositif de formation pour mettre en œuvre et préparer le projet. L'enveloppe pourrait atteindre les 750 millions d'euros de prêts.
Et côté grandes enseignes à présent, les salariés d'André manifestent ce matin à Paris contre le redressement judiciaire de leur entreprise. Ils craignent pour leur emploi. Autre manifestation de plus grande ampleur, cette fois à quelques jours de la clôture du Ségur de la Santé, les personnels hospitaliers sont de nouveau appelés à manifester dans des dizaines de villes aujourd'hui pour obtenir davantage que les 6 milliards 300 millions d'euros déjà mis sur la table par le gouvernement.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu dans les matins d'été. La centrale nucléaire de Fessenheim a été définitivement arrêtée.
Son second réacteur a été débranché du réseau électrique national, une victoire pour les écologistes après un autre succès dans les urnes, cette fois c'était dimanche. En remportant des villes comme Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Poitiers, les Verts se positionnent dans la perspective de la présidentielle de 2022. Ce succès électoral ravive le clivage gauche-droite, estime Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS et membre du Centre de recherche de Sciences Po.
On voit se reconstituer quand même une gauche, je dirais, non radicale, avec les écologistes, le Parti Socialiste, une partie de la France Insoumise, éventuellement une partie du PCF ou des mouvements citoyens. Donc il y a quand même un débouché concret aussi à tous les mouvements citoyens et aussi à toutes les listes citoyennes qu'on avait vu émerger lors du premier tour des municipales de cette année. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, vous avez un renversement au sein de cette alliance de gauche non radicale, entre les écologistes, entre les Verts et le Parti Socialiste, parce que pendant très longtemps, le Parti Socialiste était en position de leader, maintenant c'est plutôt l'inverse. Donc effectivement, là, il y a sans doute un changement, mais je pense que ce changement se traduit aussi par l'inscription sous une nouvelle forme, je dirais la réémergence sous une nouvelle forme du clivage gauche-droite, parce qu'il me paraît difficile d'être écologiste et en même temps de défendre le capitalisme financier. Et ce clivage, il a un sens aujourd'hui très simple, c'est dans le fond d'un côté le libéralisme, la mondialisation, de l'autre côté c'est l'écologie et la qualité de la vie. Donc là effectivement, vous avez une articulation qui est claire, avec des valeurs qui s'opposent. Et je ne vois pas pourquoi on dirait que le clivage gauche-droite a disparu.
Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS, au micro de Pierre Neveu. Il ne s'agit pas de tirer de conséquences excessives de scrutins qui sont d'abord locaux, a commenté de son côté hier soir Emmanuel Macron. C'était lors d'une conférence de presse avec la chancelière allemande Angela Merkel à Meseberg, près de Berlin. Les deux côtés, France et Allemagne, ne s'étaient pas revus en tête-à-tête depuis le début de la pandémie. La France et l'Allemagne ont ainsi montré hier leur volonté commune de faire aboutir leur initiative pour une sortie de crise, un plan de relance européen de 750 milliards d'euros. La correspondance à Berlin de Ludovic Piétenu.
Ils sont désormais d'accord sur tout. Le couple franco-allemand sort renforcé de cette crise sanitaire. Ensemble, ils ont été force de proposition pour l'Europe. C'est ensemble, dit la chancelière allemande, qu'ils vont tenter de convaincre les autres pays européens.
Quand la France et l'Allemagne sont d'accord, ça ne veut pas dire que toute l'Union européenne est d'accord. Mais il est certain qu'il n'y a pas d'avis commun de l'Union européenne si la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord.
C'est donc à deux qu'ils ont mis la pression hier sur les pays dits frugaux, ceux qui ne sont pas prêts à plus de solidarité, Pays-Bas, Suède, Danemark et Autriche.
Nous sommes arrivés à un moment de vérité pour l'Europe.
Et c'est avec ce ton grave qu'Emmanuel Macron appelle ces quatre pays à briser un tabou, à changer d'approche, comme l'a d'ailleurs fait l'Allemagne ces dernières semaines.
Ce sont des pays qui sont bénéficiaires nets du fonctionnement du marché unique. Ce sont des pays pour qui participer à un espace commun de prospérité et d'échange rapporte beaucoup, beaucoup plus qu'à d'autres.
Le chemin est encore long jusqu'au sommet européen des 17 et 18 juillet, a fait valoir Angela Merkel, qui espère néanmoins signer son premier succès à l'heure où l'Allemagne assure à partir de demain et pour 6 mois la présidence du Conseil européen.
Ludovic Pietenu à Berlin pour France Culture. La pandémie de Covid-19 vient de franchir deux seuils symboliques, plus d'un demi-million de morts et 10 millions de contaminations. Elle est loin d'être finie, elle s'accélère même, prévient l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS envoie des experts en Chine pour en apprendre davantage sur l'origine du virus. L'épilogue provisoire de l'affaire qui avait fait dérailler sa campagne présidentielle en 2017, l'ancien Premier ministre François Fillon a été condamné hier à Paris à 2 ans de prison ferme et à une lourde amende pour les emplois fictifs de son épouse Pénélope Fillon. On y revient dans le journal de 7h30. Le temps de ce mardi 30 juin, marqué par des nuages et des faibles pluies dans la moitié nord du pays, du soleil partout ailleurs et au meilleur de la journée, il fera entre 18 et 35 degrés du nord au sud, Guillaume Hermé.
Merci Catherine Dutu, 7h11 sur France Culture.